faire votre recherche. On est bien d'accord que les librairies ne présenteraient plus beaucoup d'intérêt. Et donc, il ne faut pas nier aussi ce plaisir-là pour le lecteur, qui est aussi le nôtre, je le pense, quand on fréquente une bibliothèque, d'aller butiner, parcourir les rayonnages. Bon, il est évidemment question de sérendipité. Et puis, je le pense aussi pour, en tout cas, dans ma bibliothèque, qui est une bibliothèque, on va dire, de taille moyenne, on a à peu près 30 000 ouvrages. Et il s'agit d'une bibliothèque de droit et d'économie-gestion. Et ce que je constate, c'est que la DIWE fonctionne à merveille pour les juristes, puisque grossièrement, ils retrouvent une organisation, ils retrouvent dans les cotes l'organisation par matière juridique. Ce qui fait que ça correspond très bien à leur mode de recherche. Et je pense que si j'interrogeais mes étudiants, j'arriverais à une utilisation assez faible du catalogue, en tout cas, jusqu'à, on va dire, la licence ou la première année de maîtrise. Au-delà, évidemment, les perspectives seraient différentes. Donc tout ceci pour dire qu'il faut avoir conscience dans les stratégies de valorisation qu'on met en place de l'importance de cette consultation en rayon et de l'importance de prendre en considération ces stratégies et de ne pas forcément avoir un regard négatif sur ces stratégies-là. Alors, deuxième constat sur nos chers digital natives. On a un discours assez convenu, je pense, de la part de nos politiques, de la part de nos tutelles, qui voudraient que nos étudiants ou la nouvelle génération, parce qu'ils baignent dans le numérique, parce que ce sont des digital natives, auraient, on va dire, naturellement un attrait très fort pour les ressources numériques. Et que, par ailleurs, ils seraient, on va dire, là aussi... parce que dès la naissance, ultra compétent en matière de numérique. Donc on le sait, en bibliothèque, la réalité est légèrement, voire fortement différente. Pour commencer, on constate, et bon, des études le montrent, mais je pense aussi que dans notre quotidien, on peut le constater également, nos étudiants sont encore très attachés au support papier. C'est vrai, c'est particulièrement vrai pour des étudiants de licence, mais également au-delà. Et parfois, pour tout ce qui est, on va dire, politique documentaire et complémentarité des supports entre numérique et papier, parfois on a tendance à limiter les réticences, on va dire, aux enseignants les plus âgés. On va dire, ah, tel enseignant va nécessairement vouloir consulter sa revue au format papier ou son ouvrage au format papier. Dans les faits, ce n'est pas limité qu'aux enseignants. Quand je propose à un étudiant une ressource électronique, bien souvent, enfin, quand on va parler d'e-book, bien souvent, j'ai le droit à un regard intéressé. Ah oui, ah bon, d'accord, je note, mais avez-vous l'ouvrage au format papier ? Je pense que... là aussi, il ne faut pas nier cet attachement au papier. Je me suis notamment basé sur une enquête menée par la Haute École supérieure de Berne, qui est une école d'ingénieurs, pour le coup, donc enseignement en sciences et techniques. Il y avait eu un sondage mené, une enquête relayée par la presse en 2014, et qui indiquait que seuls 25% des étudiants interrogés accepteraient de ne plus avoir de manuel sous forme papier. Seuls 25%. Donc là aussi, on le voit, donc, attachement fort au papier. Donc j'ai proposé un petit jeu de mots sur le digital rétif. J'évoquais tout à l'heure les compétences informationnelles. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas parce qu'un étudiant a une très grande agilité numérique, c'est-à-dire qu'il est très habile de ses pouces sur son smartphone, qu'il utilise de manière intensive les réseaux sociaux, qu'il sait parfaitement partager des médias via les réseaux sociaux, qu'il saura nécessairement faire face à une méthodologie de la recherche documentaire appliquée aux ressources numériques. Et là aussi, on le sait en matière de formation, et je constate que même pour des étudiants, on va dire, avancés en Master 2, quand on les a en formation, on est parfois très surpris du caractère très limité de leurs compétences dans ces domaines-là. Par ailleurs aussi, dans le cas des bibliothèques universitaires, on ne peut nier que l'offre n'est pas toujours à la hauteur des attentes des étudiants. Longtemps, on a eu une offre, on va dire, plutôt axée sur le niveau recherche, niveau master recherche. Aujourd'hui, on a une offre universitaire qui se développe de plus en plus pour le niveau licence, qui est déjà existante et qui est très riche. Le problème, selon moi, c'est que de plus en plus, on s'oriente vers une offre uniquement en lecture streaming, ce que je peux tout à fait comprendre pour, on va dire, des raisons de protection du droit d'auteur au vu de ce qu'il s'est passé pour les supports numériques dans le domaine de la musique. Mais le fait est que la lecture streaming pose un certain nombre de difficultés. Ne serait-ce que avoir une très bonne connexion Internet pour limiter les temps de réponse quand on navigue sur des pages, l'absence de possibilité donc de téléchargement, de pouvoir facilement retravailler sur les documents. Donc il y a tout un certain nombre de freins objectifs également à l'utilisation de ces ressources. Donc à partir de ces deux constats, et c'est ce qui constitue le propos principal de mon mémoire, je pense qu'il est important donc de concevoir la valorisation des ressources numériques en tenant compte donc de ces logiques d'usage qui sont encore fortement ancrées dans l'imprimé. Et d'admettre donc que nos étudiants auront tendance, en première intention, à privilégier l'offre papier. Alors je vous ai mis un visuel, une affiche qui a été réalisée par des collègues du SCD de l'Université Paris 8. Alors pourquoi cette affiche ? Puisque pour moi c'est une manière de communiquer justement qui tient compte de cette réalité-là. Puisqu'il s'agit d'une affiche toute bête à poser dans les rayonnages pour indiquer aux étudiants qui, on le sait, ils veulent tous emprunter les mêmes ouvrages au même moment, bien souvent pour préparer leurs examens, donc ils vont être nécessairement confrontés à la question du nombre limité de nos exemplaires physiques. Et c'est important qu'ils aient l'information sur l'offre numérique au moment où ils se confrontent à la recherche des exemplaires papier et éventuellement avec une petite déconvenue, l'exemplaire que je recherche n'est plus disponible au format papier. Et avec ce type campagne de communication, ils vont pouvoir réaliser que, ils ont une offre alternative qui leur permet de dépasser cette difficulté. Et pour moi, cette offre alternative, il est important qu'elle s'appuie sur les atouts objectifs du numérique. Donc, premièrement, l'ubiquité, des ressources accessibles partout, tout le temps. Et donc la non-rivalité, puisque, en tout cas en biotech universitaire, on est sur des modèles, c'est à nuancer au niveau des accès simultanés. On est sur des modèles où il n'y a pas de limitation en termes de consultation des contenus. Alors, on va à présent aborder la question du comment et donc des scénarios de valorisation que j'évoquais. Alors, schématiquement, j'ai retenu trois scénarios autour de trois actions. Communiquer, hybrider et donner à voir. Même si, j'allais dire, la première action, communiquer, s'applique globalement à l'ensemble de ces scénarios et reste pour moi le nerf de la guerre. Communiquer, cela passe, et là aussi, il ne faut pas négliger cet aspect-là, par une communication orale efficace. J'ai été particulièrement intéressé par les résultats d'une enquête menée par le SCD de Caen il y a quelques années, au moment où nos collègues ont déployé une offre de prêt de tablettes et de prêt de liseuses à l'université. Et donc, ils ont relayé cette offre auprès de leurs étudiants par tous les canaux disponibles, réseaux sociaux, affichages, infos sur le site web. Et par la suite, ils ont mené une enquête de satisfaction qui intégrait comme question: comment avez-vous pris connaissance de cette offre ? Et ils se sont rendus compte qu'à 40%, les personnes qui avaient utilisé cette offre en avaient pris connaissance simplement par la recommandation, la prescription des agents de la bibliothèque. Et donc, ce rôle de prescripteur, de médiateur que les agents, que les collègues peuvent avoir en salle, il doit nécessairement s'appuyer sur une formation en interne, leur permettant d'avoir une bonne connaissance de cette offre et une bonne maîtrise de cette offre pour qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour la recommander auprès des usagers. Et je pense que Silver reviendra sur ces questions, on va dire, d'approche globale en termes de médiation et sur l'importance de cette formation. Alors j'ai choisi cette photo De la GULAC, parce que déjà c'est une de mes anciennes bibliothèques, donc je suis très attaché. Et la situation me paraît intéressante parce qu'on voit ce à quoi on est confronté en bibliothèque, c'est-à-dire du flux. Des flux d'usagers qui ne s'arrêtent pas nécessairement à la banque d'accueil, mais qui parfois viennent nous voir. Et c'est à partir du moment où ils s'adressent à nous qu'il faut être à même de faire cette proposition d'informer les étudiants ou les usagers sur l'existence de cette offre électronique. Avez-vous pensé à... savez-vous que cette offre existe ? Et nos collègues de Bordeaux avaient réalisé un petit marque-page, bon, un petit support tout bête, justement, qui peut permettre d'appuyer ce discours-là et de communiquer. Là, en l'occurrence, c'était sur l'offre d'e-book que sais-je de Cairn. Et au moment du déploiement de cette offre, ils avaient réalisé ces petits marque-pages. Autre élément qui me paraît très important, donc j'ai montré tout à l'heure l'exemple de l'affiche réalisée par nos collègues de Paris 8. Il y a plein d'autres exemples. Beaucoup de bibliothèques ont eu recours à ce type d'affichage. Là, ce sont des photos prises à la bibliothèque de la Manufacture, donc du SCD Lyon 2. Donc en promenant... Lyon 3, pardon, désolé. C'est Lyon 3, c'est vrai. En promenant, j'avais été séduit par le parti pris en termes de signalétique, notamment pour ce qui est de l'offre de périodique. Vous le voyez sur la droite, c'est un... sur l'image de droite, c'est un support en fait en plexi transparent format A4 qui indique pour une collection de périodiques la partie conservée en salle, la partie accessible et la partie accessible en ligne. Donc on a une continuité, on va dire, dans la narration des collections entre le papier et le numérique, ce qui me paraît très intéressant et très important. Toujours dans cette continuité dans la valorisation des collections, dans la narration des collections, ce petit sticker pour signaler que cet ouvrage physique est également disponible en version e-book. Et puis donc un affichage plus global sur certaines bases ou certaines ressources. Puisque là aussi, j'y reviendrai à plusieurs reprises, lorsqu'on met en place un dispositif de médiation, ce qui me paraît très important de faire, c'est d'avoir aussi une communication sur le dispositif de médiation. Donc une sorte de méta-communication. Donc c'est le cas sur, vous voyez, sur le visuel de gauche. Donc c'est une affiche qui informe les lecteurs de la mise en place de ces stickers et donc de cette complémentarité entre l'offre papier et l'offre numérique. Alors, je pense aussi que sur ces questions, l'affichage dynamique a évidemment un rôle majeur à jouer. Donc tout à l'heure, vous nous avez montré... un visuel montrant les équipements de signalétique dynamique proposés à la bibliothèque d'Utrecht. Alors là, c'est un visuel qui provient d'une bibliothèque universitaire américaine. Depuis quelques années, la signalétique dynamique, c'est quelque chose qui se développe, que ce soit en lecture publique. J'ai vu les écrans qui avaient été installés à l'entrée de la bibliothèque municipale de Lyon ou à l'université. Et... c'est tout à fait un médium intéressant en matière de médiation numérique. C'est encore rarement le cas, mais je pense qu'on pourrait l'utiliser davantage pour mettre en valeur des bases de données, de nouveaux abonnements, proposer aussi des contenus dynamiques, c'est-à-dire un petit clip mettant en valeur telle ressource ou telle base. Là aussi, ça me paraît être des choses très importantes. Dans la mesure où les abonnements à ces bases coûtent parfois des dizaines de milliers d'euros, et il me paraît tout à fait anormal qu'on ne consacre aucune somme à la valorisation de ces ressources. Il y a quelque chose qui me paraît tout à fait déséquilibré entre le poids consacré à l'acquisition de ces ressources et l'investissement en énergie et en moyens consacré à leur mise en valeur et à la communication sur ces ressources. Alors, deuxième scénario, un scénario donc autour de l'hybridation entre espace physique et espace du web. Cette hybridation, elle s'effectue au moyen de ce qu'on appelle des objets connectés. Ce que Silver a appelé des dispositifs passerelles. Il y a plusieurs types d'objets connectés. Je vais développer essentiellement... deux types de dispositifs passerelles, les QR codes et la NFC. Bon, le point commun de ces deux dispositifs, c'est qu'ils passent par le recours au smartphone pour l'usager. Alors, les QR codes en bibliothèque, j'allais dire, c'est, bon, ce n'est pas de l'histoire ancienne, mais c'est déjà quelque chose qui date un petit peu. C'est un dispositif, on va dire, qui a explosé au moment de la généralisation des smartphones et des premiers iPhones, vers 2010-2012. On a Thomas Chimbaud à l'ENSIB qui a fait, en 2013, on va dire, un panorama assez complet des différentes utilisations possibles des QR codes en bibliothèque. Donc, pour mémoire, le QR code, en fait, c'est, on va dire, un code barre nouvelle génération qui permet de... si on le lit à partir d'un smartphone, de déclencher l'ouverture d'une URL. Concrètement, l'usager prend son smartphone en mode caméra, il flash le smartphone et il y a une page qui peut s'ouvrir. Il y a énormément d'utilisations possibles, il y a beaucoup d'utilisations industrielles pour, on va dire, des opérations logistiques, mais il y a également donc tout un tas de dispositifs envisageables en termes de médiation. Et d'ailleurs, nos collègues, on va dire, du patrimoine et des musées ont été les premiers à se positionner là-dessus et à faire preuve d'imagination en matière de QR code. Alors là, dans les trois visuels que j'ai retenus, bon, c'est trois exemples. Premier exemple qui nous vient de l'École polytechnique française de Lausanne, avec, de la même manière qu'on vient de le voir pour le SCD de Lyon 3, un QR code qui signale l'existence de la version numérique d'un ouvrage. La même chose pour des revues à la BMVR de Toulouse. Et dernière image, des QR codes réalisés par une bibliothèque universitaire américaine pour valoriser leur guide thématique. Nos collègues anglo-saxons sont friands de subject guides et de guides thématiques pour aider à la recherche documentaire. Donc je me suis posé un certain nombre de questions, on va dire, sur l'utilisation de ces QR codes. La première des questions que je me suis posée, c'est leur impact. Ça a été difficile pour moi de trouver des études proposant des chiffres tangibles sur justement le nombre de QR codes flashés par les usagers. On a une étude qui a été réalisée par un cabinet qui s'appelle Comscore, qui produit des études annuelles, on va dire spécialisées dans l'audience des nouvelles technologies. Une bonne partie de ces études sont rendues publiques, donc vous pouvez les consulter en ligne. Et d'après une étude de 2012, ils indiquaient que 12,5% des possesseurs de smartphones étaient des flasheurs. Bon, ce chiffre m'a surpris parce que pour ma part, je dois vous avouer, même si j'ai été très attentif et bien souvent je me suis embusqué à côté de QR codes, je n'ai jamais vu quelqu'un flasher un QR code. Et lorsque j'ai pu consulter d'autres retours de terrain, eh bien, je suis tombé sur des chiffres bien inférieurs. Et notamment, il y a un compte-rendu d'expérience qui m'a intéressé. C'est un compte-rendu d'expérience réalisé par un conservateur du musée de Brooklyn, en charge justement de tout l'aspect médiation numérique. Et elle explique sur son blog que lorsqu'ils ont mis en place des QR codes, c'était pour valoriser une application permettant une visite enrichie des collections du musée. Et ils ont constaté que par rapport au nombre de visiteurs, ils étaient à un peu moins de 1% de visiteurs flashant ces QR codes. Donc quelque chose de tout à fait marginal et négligeable. Et chose plus gênante encore à mes yeux, en fait, le nombre de téléchargements de l'application était en baisse par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et ce qui se faisait auparavant, c'était des dispositifs, on va dire, plus traditionnels de communication visuelle avec simplement un petit logo indiquant qu'il y avait une application téléchargeable ou disponible pour iPhone ou Android. Donc sans recours au QR code, simplement voilà, une affiche avec un pictogramme informant de l'existence de cette application. Et donc, ce qu'elle constatait, c'est qu'un simple pictogramme était plus efficace qu'un QR code qui n'était pas forcément compris par tout le monde. Bon, je constate aujourd'hui que les QR codes sont toujours utilisés, pas qu'en bibliothèque. Également, bon, je remarque dans le métro à Paris que régulièrement, je vois des QR codes embarqués sur les affiches, sur des supports de communication, je vois également régulièrement des QR codes. Bon, il est vrai que c'est un dispositif qui ne coûte rien. Il est gratuit de générer des QR codes, c'est très simple. Mais encore une fois, je ne suis pas persuadé de l'utilité ou d'un impact réel en termes de médiation. Par ailleurs, je pense que les QR codes et la manière dont ils se sont répandus en bibliothèque sont révélateurs de notre rapport à la médiation numérique. Où, au niveau des équipes, on est, et c'est normal, curieux, on a envie de proposer de nouveaux outils, de nouvelles formes de médiation. Et ces nouvelles formes de médiation peuvent être aussi une manière de mobiliser les équipes, de les faire monter en compétences. Mais peut-être qu'on n'est pas assez attentif à l'impact réel de ces dispositifs auprès de nos usagers. Voilà. Alors, au niveau de l'utilisation des QR codes, les deux seuls cas de figure, les deux seuls cas d'usage où j'ai pu mesurer un réel impact, en fait, ce sont deux dispositifs de médiation où, pour moi, les QR codes sont secondaires. Il s'agit donc de dispositifs de matérialisation de l'offre d'e-book. Sur l'image de gauche, vous pouvez constater, c'est une image extraite d'un compte-rendu d'expérience dû à la bibliothèque publique de Sacramento, qui a fait le choix de matérialiser son offre d'e-book en réalisant des marque-pages qui étaient glissés dans les rayons, à l'endroit où le livre physique aurait dû être classé. Et ces marque-pages étaient régulièrement remplacés par les équipes. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au verso de ce marque-page, il y a un QR code. Donc vous le voyez, il y a un visuel soigné, un visuel très abouti. Et ils ont constaté que dans l'année qui a suivi la mise en place de ces marque-pages, le nombre d'e-books consultés avait plus que doublé. Donc il y a eu un impact très fort en termes d'usage. Autre cas de figure, là pour le coup c'est un exemple plus étonnant qui nous vient d'une bibliothèque de l'Université d'État de l'IDAO, où donc l'équipe de cette bibliothèque a fait le choix de créer des fantômes, donc des zombies d'e-book. Et ils ont poussé les choses très loin, puisqu'ils ont eu le souci d'imiter des ouvrages papier. Et donc, ils ont fait l'achat de blocs de bois, qu'ils ont demandé à leurs vacataires étudiants de poncer, parce qu'ils expliquent dans leur compte-rendu d'expérience qu'ils ont acheté des blocs de bois bruts pour faire des économies. Et ensuite, ils ont contrecollé les couvertures des ouvrages sur ces blocs de bois. Ils ont coté ces ouvrages et ils les ont disposés sur les rayons. Au niveau du choix du fond qui a été matérialisé, en fait, ils ont fait le choix de cibler une offre particulière, en l'occurrence, une bibliothèque d'usuels proposée par l'éditeur Gale. Donc l'ensemble de la base a été matérialisé. Et là encore, les résultats dont ils rendent compte sont tout à fait probants, puisque dans le mois qui a suivi la mise en place de ces e-books, les statistiques de consultation ont quadruplé. Et dans l'article qui rendait compte de cette expérience, ils annonçaient leur intention de matérialiser une autre de leurs bases. Voilà. Alors, c'est toujours des exemples qui font réagir, c'est normal, en bibliothèque. Je tiens à préciser quand même, puisque j'ai eu souvent l'occasion d'échanger à propos de ces questions, je ne dis pas nécessairement que c'est la solution. Et qu'il faut matérialiser nécessairement les e-books. Comprenez-moi bien. Je rends juste compte d'une expérience qui, dans un contexte particulier, a été probante et a eu un impact réel. Je pense que, en termes de dispositifs transitoires, par exemple pour accompagner le déploiement d'une offre, ça a un réel intérêt. Au niveau de mes collègues en BU, j'ai eu plusieurs échos, retours de dispositifs, on va dire, similaires, recourant à des boîtiers de DVD. Et à l'idée de matérialiser une offre d'e-book à partir de boîtiers DVD en glissant au niveau de la jaquette un visuel reprenant l'ouvrage papier. Alors je comptais beaucoup sur la bibliothèque universitaire du Havre pour jouer le rôle un petit peu de cobaye. À l'époque de la rédaction de mon mémoire, ils étaient sur le point 2. Et puis un an après, je les ai recontactés, ils m'ont dit « Ah, mais là, en fait, on a eu des problèmes pour le signalement, etc. » Alors, je ne sais pas où cela en est, je ne sais pas si ça a été mené jusqu'au bout, pour tout vous dire. Voilà. En tout cas, ce qui me paraît à retenir dans ces deux expériences, d'une part, c'est le professionnalisme et la qualité des visuels, des objets tangibles réalisés, et d'autre part, l'approche systématique. Je ne crois pas au dispositif de médiation où on va matérialiser quelques e-books qu'on va mettre sur une table comme on pourrait le faire pour la valorisation d'ouvrages papier. Si on se lance là-dedans, pour moi, cela n'a de sens que dans le cadre d'une opération massive, comme ça a été le cas pour ces deux bibliothèques universitaires. Donc, dans ces deux cas, en tout cas, des QR codes étaient intégrés au livre matérialisé. Mais selon moi, encore une fois, la présence des QR codes était secondaire. Alors c'est un sentiment personnel. Dans les articles qui rendaient compte de ces expériences, on ne précisait pas quel était le nombre de consultations effectuées à partir d'un flashage des codes barres. On me fait signe d'avancer. Pour en conclure sur les QR codes, le principal reproche que je leur ferai, au-delà, on va dire, des difficultés d'ergonomie, puisque cela implique de télécharger au préalable une application de lecture sur son smartphone, c'est le fait que, quelque part, ça ne répond pas aux besoins de nos usagers. Un usager, lorsqu'il est en rayon, il n'a pas nécessairement besoin de se connecter tout de suite à la version numérique de l'ouvrage. Ce qu'il a besoin de faire, c'est de prendre connaissance de l'existence de cette ressource et, si possible, de pouvoir enregistrer cette ressource ou de la verser à un compte utilisateur personnel. Et des dispositifs comme cela ne le permettent pas. Et je pense qu'il faut essayer de tendre vers cela. Et je vais parler d'autres dispositifs qui, à mon goût, sont plus adaptés à cela. Alors, j'avance rapidement sur la NFC. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette technologie, donc Near Field Communication, pour communication en champ proche. C'est une technologie dérivée de la RFID. En gros, ça reprend la même longueur d'onde que les puces RFID que nous utilisons en bibliothèque. Et c'est une technologie qui est intégrée au smartphone. Qu'est-ce que permet de faire la NFC, tout d'abord, ça permet de transformer un smartphone équipé de la NFC en lecteur de cartes. Donc de la même manière qu'on pouvait, à partir d'un smartphone, lire un QR code, on peut très simplement, à partir d'un portable, lire une étiquette NFC, donc une étiquette RFID. La différence avec les QR codes, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger l'application au préalable, elle est intégrée au smartphone. Et que le mouvement est très simple, il s'agit juste de poser son téléphone à proximité de la puce. Deuxième possibilité, c'est un smartphone NFC peut se transformer en émulateur, c'est-à-dire qu'il peut activer ou désactiver une puce RFID. Et là, ça devient super intéressant. Troisième possibilité, c'est qu'un smartphone NFC peut échanger avec un autre smartphone NFC, comme on peut le faire, avec la Bluetooth. Alors, au niveau des exemples d'utilisation de médiation faisant appel à la NFC, pour l'instant, on a assez peu d'exemples. Encore une fois, c'est plutôt du côté des musées, c'est plutôt les musées qui ont ouvert la voie, avec des dispositifs de visite augmentée intégrant à la fois des QR codes et des puces NFC. Bien souvent, les deux dispositifs sont couplés. Et puis, plus récemment, la bibliothèque de Hano au Japon, dont l'expérience a été rendue compte dans les brèves de l'ENSIP d'ailleurs, qui a mis en place une utilisation systématique de la NFC dans ses rayons. Et alors, comme c'est au Japon que c'est loin, que c'est éloigné, on n'a pas de compte-rendu détaillé, malheureusement, il y a l'obstacle de la langue, mais il semblerait que ce soit plutôt axé autour de la recommandation d'ouvrage entre les lecteurs, la recommandation entre pairs, et que ces puces NFC, en fait, facilitent cette opération, puisqu'à partir de la puce NFC intégré à l'ouvrage, on peut facilement ajouter un commentaire sur cet ouvrage-là qui va être proposé sur le catalogue en ligne de la bibliothèque de Hano au Japon. Là où je trouve la NFC particulièrement intéressante, en fait, c'est pour les perspectives qu'elle offre vis-à-vis de nos puces RFID traditionnelles. Je suis surpris qu'on n'entende pas encore parler d'applications permettant, à partir d'un équipement NFC, d'emprunter avec son smartphone des ouvrages, puisque, étant donné qu'on peut, avec son smartphone, activer ou désactiver une puce RFID, logiquement, techniquement, assez facilement, on pourrait aller vers un emprunt d'ouvrage réalisé depuis son smartphone sans recours aux automates de prêt RFID. Bon, alors évidemment, les équipementiers et les fournisseurs de solutions RFID, au vu du prix des automates, ne doivent pas être particulièrement désireux que nous passions à ce type de solution. Mais cela pourrait permettre aussi d'envisager par la suite des applications permettant des suggestions contextualisées d'offres numériques. Par exemple, j'emprunte un ouvrage papier à partir d'une puce NFC, et là, j'ai des suggestions d'ouvrages numériques liés à cet emprunt papier. On l'a évoqué tout à l'heure, ça existe déjà, des suggestions géolocalisées en fonction du lieu où on se trouve dans la bibliothèque. Alors, ces dispositifs de communication, ils s'intègrent, on va dire, à ce qu'on appelle aujourd'hui la communication cross-canal, très développée dans le domaine du marketing. Il y a un acronyme qui était à la mode il y a quelques années sur la démarche Solomo pour social, local, mobile. C'est-à-dire donc une démarche de communication essayant de faire feu de tout bois et de mettre à profit tous les canaux d'information. Et voilà, je vous montrais un exemple pris dans les TER de Lorraine, où il y a une bibliothèque numérique qui est proposée en abonnement aux utilisateurs du TER. Et vous le voyez, dans les TER, dans les wagons, en fait, on a la reproduction d'une bibliothèque avec des QR codes et des puces NFC, donc permettant d'accéder directement au contenu. C'est un type de dispositif qui se développe beaucoup, bien souvent plutôt à l'initiative des régies de transport ou des sociétés de transport au niveau des agglomérations ou d'entreprises comme la SNCF qu'au niveau des bibliothèques. Alors, dernier scénario de valorisation, donner à voir. Pour moi, c'est la question de comment mettre en vitrine le numérique. Donc, tout à l'heure, notre collègue Dutrèche nous parlait de l'impact du développement de la vente en ligne sur le réseau de vente physique dans les centres urbains. Et en effet, au cours des premières années du développement de l'achat en ligne, c'est ce qu'on a appelé, le web to store, pardon. C'est-à-dire que les usagers, les clients achetaient en ligne et il y avait une livraison à domicile à partir d'un entrepôt, typiquement Amazon. Et donc, c'est comme cela que s'est développée les premières années l'offre de vente en ligne. Et ce qu'on constate depuis peu, c'est une offre complémentaire, non pas une inversion de la tendance, mais une offre complémentaire où on voit, je pense que vous l'avez remarqué, de plus en plus de magasins qui inversent le concept. On passe du store to web et on se rend dans un magasin et on nous propose de consulter depuis une interface de consultation numérique l'intégralité du catalogue et éventuellement de commander et de se faire livrer dans le magasin le produit qui nous intéresse. Alors sur ce visuel, c'était l'exemple d'un vendeur de chaussures, Spartoo, et c'était un sujet du journal de France 2. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres exemples. J'ai vu récemment Sephora qui a lancé un concept de boutique Sephora Flash, Decathlon Mobility. C'est toujours un petit peu sur le même modèle, des petites surfaces commerciales, des pop-up stores, donc bien souvent qui n'ont pas vocation à fonctionner dans la durée, de taille réduite, mais qui donnent accès donc à une offre très importante en ligne. Et donc cette logique-là, elle me paraît tout à fait intéressante en bibliothèque, et on pourrait très bien, c'est ce que j'ai retenu comme terme, passer d'une logique web to library à library to web, et donc avec l'idée de bornes en salle de lecture permettant très simplement de sélectionner un e-book et de l'ajouter à son compte utilisateur, ce qui permettant à l'usager, depuis chez lui ou depuis lors de son voyage en train, de se reconnecter à son compte utilisateur et cette fois de lire ce contenu. Et là, c'est l'exemple d'un produit Overdrive. Alors, visiblement, Overdrive, c'est l'agrégateur d'e-book leader dans le marché, sur le marché outre-Atlantique, et qui propose donc une solution intégrée avec à la fois des terminaux et à la fois une catalogue, un catalogue de contenu. Alors évidemment, pour ce qui est de la France, se pose la question des droits, de la possibilité donc d'agréger, d'intégrer ces contenus. J'ai cru comprendre qu'au niveau de l'offre PNB, donc pré-numérique en bibliothèque, bon, cette question de l'interface avait été, on va dire, laissée à la charge des différentes bibliothèques municipales. Et là aussi, j'ai eu des échos comme quoi les bibliothèques numériques de référence qui s'étaient lancées dans le développement de cette offre réfléchissaient au développement de ce type d'interface avec, pourquoi pas, des bornes mobiles, enfin des bornes de consultation du contenu en salle. J'ai eu des échos également d'un acteur québécois, donc BiblioPresto, qui est l'opérateur de services pour les plateformes de prêt de livres numériques au Québec. Et visiblement, BiblioPresto réfléchit également au développement de ce type de borne. Alors, il me reste 5 minutes. C'est parfait. Et je vais donc étendre un petit peu mon propos et donc évoquer la question donc, de l'au-delà des collections, en me rattachant plus directement au fil conducteur de cette journée sur le numérique et la mise en espace. De mon point de vue, je vois deux tendances principales dans l'impact du numérique sur les espaces qui sont, pour ainsi dire, opposées. Première tendance, c'est le numérique comme donc, vecteur de spécialisation et de diversification fonctionnelle des espaces. On le constate en bibliothèque universitaire, l'offre numérique, l'offre multimédia, permet d'envisager des services qui, assez inédits, et une diversification de l'offre de services. J'ai repris un visuel d'un produit, donc du produit Steelcase, les Mediascape, qui en effet sont très répandus aujourd'hui en bibliothèque universitaire, qui suscitent beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, de manière significative, c'est un Mediascape qui a été retenu comme visuel de cette journée. Bon, on pourrait aussi évoquer on en parlait tout à l'heure sur, par exemple, le principe de permettre des visioconférences en ligne. Pour Malakoff, je souhaiterais qu'on réfléchisse à un espace sur le modèle des Presentation Practice Rooms, des bibliothèques universitaires américaines, c'est-à-dire un espace permettant aux étudiants, très simplement, de s'installer dans une salle, d'enregistrer une prestation orale et de visionner cette prestation et de la faire visionner alors à ses enseignants. Ce qui, dans le cas de Malakoff, qui est une bibliothèque universitaire de droit, a une grande importance, puisque l'art oratoire, la plaidoirie, voilà, c'est un aspect fondamental à maîtriser pour ces étudiants. L'écueil que je vois dans cette tendance, là aussi vous l'évoquiez à propos de Mulhouse, on va dire, c'est les mirages de la technologie. Et le fait de l'effet catalogue, c'est-à-dire de penser d'abord davantage en termes de produits que d'usages et que, des réels usages et des réels besoins de nos usagers par rapport à ces équipements. Donc attention au mirage du tout technologique. Deuxième tendance, qui pour moi est à l'opposé, le numérique comme agent du tiers-lieu. Alors, on a beaucoup parlé de la bibliothèque troisième lieu, au point qu'on ne supporte plus ce terme. Moi, ce qui m'intéresse davantage, on va dire, c'est le tiers-lieu au sein de la bibliothèque. Et je considère que le numérique, par les facilités qu'il ouvre, par la promesse qu'il porte, c'est-à-dire de pouvoir se connecter depuis partout à ses ressources, de pouvoir travailler depuis n'importe quel espace, contribue beaucoup au développement de cette notion de tiers-lieu dans les espaces de la bibliothèque. Et j'ai pris un visuel donc, de la faculté d'Assas qui fait figure de modèle à l'échelle parisienne, puisqu'il y a eu un projet d'aménagement assez complet du campus, avec une logique de site et une logique très complète dans la manière de faire vivre l'ensemble des espaces, et notamment les espaces de circulation. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais signaler l'intérêt du guide qui a été proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche récemment, intitulé « Campus d'avenir », Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite tous à le consulter, même si, on va dire, vous êtes en lecture publique, parce que les réflexions qui sont proposées sont extrêmement riches. Il y a un regard très complet, une analyse à la fois sociologique, fonctionnelle, pédagogique, architecturale, sur l'évolution des campus. Et personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce document et de voir que, eh bien, les problématiques actuelles étaient prises en compte et que le ministère, entre guillemets, se souciait de mettre en avant ces bonnes pratiques. Et pour conclure sur ce chapitre-là, pour moi, je pense qu'un des effets aussi du numérique, c'est le fait que ces catégories reposant sur des différenciations par usage sont en train de s'estomper. Cela rejoint le propos de ce matin sur le passage d'une bibliothèque, on va dire, d'une approche fonctionnelle à une approche situationniste, puisque aujourd'hui, on le voit, des étudiants peuvent travailler de manière studieuse et individuelle, eh bien, depuis les tables d'une cafétéria ou dans une ambiance bruyante. Et à l'inverse, ils peuvent rechercher une ambiance très calme dans une salle de lecture pour regarder la vidéo avec un casque du dernier comique à la mode. Et ça, il faut en avoir conscience. Et ça me paraît intéressant, en termes de programmation, de travailler davantage sur cette notion d'atmosphère, d'ambiance, et plutôt que uniquement sur un aspect usage. Alors, je pense que j'ai dépassé le temps de parole qui m'était imparti. Je vous dis juste deux mots, donc je n'aurai pas le temps de développer. Je vais faire une petite promotion pour la bibliothèque qui me tient beaucoup à cœur, qui ouvrira en septembre 2016, qui s'inspire, on va dire, du concept de Learning Center, mais qui n'est pas un Learning Center. C'est un projet qui, sur une maîtrise d'ouvrage de la région Île-de-France. Curieusement, en fait, l'architecte est le même que sur la bibliothèque municipale de Brest, donc c'est l'agence Canal Architecture, Patrick Rubin. Et les deux points forts de ce projet, j'en dirai pas plus, de 2500 m², donc une bibliothèque qui ouvrira en septembre 2016, c'est les salles de travail en groupe. Sur 400 places, on aura 170 places de travail en groupe, donc 30 salles de travail en groupe. Et par ailleurs, l'ouverture sur la ville, ce qui est plus rare pour une bibliothèque universitaire, puisque le bâtiment est conçu pour ouvrir indépendamment côté rue, donc côté ville de Malakoff, et côté faculté. Ce qui fait qu'on n'est pas contraint par les contraintes de fonctionnement, justement, du campus. Et cette ouverture sur la ville, elle se traduira également par l'offre de services, puisque nous accueillerons une clinique juridique, c'est-à-dire une permanence d'aide juridictionnelle assurée par des étudiants, encadrée par des professionnels, et donc qui sera ouvert à tous les justiciables. Voilà. Désolé d'avoir dépassé.
Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, nous passons à l'intervention de Silver. Je vous suggère de retenir vos questions pour la fin de son intervention. Merci.
Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci aux organisateurs de cette journée. Moi, je vais effectivement centrer mon propos sur la question des dispositifs passerelles de médiation, et je vais vous préciser les choses pour expliquer ce que veut dire pour moi ce concept de médiation et surtout aussi de dispositif de médiation. Mon angle, il est un petit peu différent que celui de Frédéric, mais parce que déjà, c'est beaucoup plus centré sur les bibliothèques publiques. Et puis cet angle de la médiation, en fait, pour moi, sert de guide à la définition et à la mise en œuvre de dispositifs. Alors, je vais partir du démarrage et du contexte, en fait, comme je fais très souvent en formation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quel est le fondement d'utilité sociale sur lesquels les bibliothèques peuvent construire leur utilité et leur impact social ? Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a énormément de documents, énormément de contenus en circulation. Et donc, il y a une abondance de documents. Par contre, il y a une forme de rareté qui est une rareté fondamentale, c'est celle du temps qu'on peut consacrer à tel ou tel contenu. Donc la compétition aujourd'hui ne se fait plus sur la manière d'accéder à un espace public dans lequel on peut rendre du coup public des contenus, mais bien sur le temps qu'on peut consacrer à tel ou tel contenu. Et ça a un impact forcément dans les pratiques culturelles des gens et dans la manière du coup dont les bibliothèques doivent se repositionner. Évidemment, on a aussi ce genre de slide un peu un peu effrayant, un peu vertigineux sur tout ce qui se passe en termes de production d'informations sur le web. Hein, donc on n'est pas dans l'univers des bibliothèques ici. C'est vertigineux. C'est énormément de contenu produit par tout un chacun de manière régulière. Donc les bibliothèques sont confrontées, comme les usagers, à une forme de surabondance. Cette surabondance, elle ne concerne pas uniquement les documents qui sont librement, qui circulent, disons, sur Internet de manière en libre accès. Elle concerne aussi les contenus qui sont, disons, sous droit. C'est quand même quelque chose d'important et il ne faut absolument pas se cacher le fait qu'on a 10 millions de Français aujourd'hui qui téléchargent de manière totalement illégale. Est-ce que ça peut ne pas avoir un impact quand on propose une offre de CD ou une offre de contenu en ligne ? La question du coup qui se pose dans cette abondance de contenu, alors en plus on peut ajouter le fait, selon cette étude de la DOPI là, qui avait été relayée par Libération, qu'en fait les échanges se font d'ailleurs pas en ligne la plupart du temps, pas via Internet, mais en fait via des échanges de clés USB entre amis ou des échanges de disques durs. Donc ces pratiques de consommation illégale de contenu, elles posent la même question, et une question fondamentale, qui est celle du choix dans les contenus. Et du coup, la question sur laquelle on peut construire en termes de services et en termes d'offres et en termes de médiation, c'est la question du choix dans les contenus. Et du coup, ça situe les bibliothèques d'emblée dans une économie de la recommandation et dans un fonctionnement qui va être celui d'aider au choix. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour aider au choix ? C'est tout l'enjeu, en fait, de la médiation et de la recommandation. Il ne faut pas oublier, en fait, que la recommandation, c'est quand même le vecteur principal de diffusion des idées. Songez vous-même à la manière dont vous avez eu accès, en fait, au dernier film ou au dernier produit culturel que vous êtes allé voir, au cinéma, par exemple. Souvent, c'est parce que quelqu'un vous l'a recommandé, quelqu'un en qui vous avez confiance, ou alors une marque à laquelle vous accordez votre confiance. Donc cette recommandation, elle est absolument fondamentale, et l'émetteur de la recommandation est lui aussi absolument fondamental. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on passe d'une ère dans laquelle on est des fournisseurs d'accès à des contenus à une ère dans laquelle on va être des gens qui des concepteurs, en fait, de dispositifs de médiation. Et donc, dans cette définition que j'avais proposée il y a quelques temps déjà, j'essaye de faire comprendre aux bibliothécaires que l'important, c'est de déplacer un petit peu le centre de gravité de l'activité des bibliothécaires, de la conception de collection à la conception de dispositifs de médiation. Et que l'important devient de contribuer toujours à des fins, donc de contribuer au savoir et au savoir-faire, mais de se poser systématiquement la question de la meilleure manière dont on fait se rencontrer les contenus et ceux qui ont besoin de ces contenus. Du coup, l'activité principale, celle qui vraiment doit concentrer les ressources d'un établissement, à mon avis, c'est donc la conception de ces fameux dispositifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dispositif ? Donc il y a une définition écrite, mais peut-être en schéma, c'est plus simple. Un dispositif de médiation, pour moi, c'est l'alliance entre un outil, certes, mais aussi un outil qui est cohérent avec des usages qu'on a constatés, et donc ça fait écho un peu ce que tu disais, Frédéric, on va avoir des exemples juste après, et puis à des besoins d'information, et ça, c'est peut-être le plus important. Quel est effectivement le scénario d'usage dans lequel on se situe pour que mon outil soit utilisé ? Alors, un contre-exemple spontané qui reprend l'histoire des QR codes. Voilà l'exemple d'un QR code qui est très mal utilisé en termes de dispositif de médiation. Et ce qui est important ici, c'est de concevoir que oui, on a l'outil, on a la passerelle, on a le dispositif passerelle, mais en réalité, ce dispositif passerelle, il est très mal conçu parce qu'il est absolument inutilisable en contexte. Autre exemple ici, quand on a une affiche situé à ce niveau-là avec un tout petit QR code, on voit très bien ici qu'il y a une erreur fondamentale dans la conception du dispositif. Et donc, moi, je serais beaucoup plus nuancé sur les questions de QR code et de leur impact. Pour moi, la question, ce n'est pas l'impact du QR code en soi, c'est l'impact du dispositif de médiation. Et vous pouvez avoir de très bons outils et donc dispositifs passerelles qui vont nous permettre donc d'accéder à des contenus en contexte, mais qui vont être tellement mal conçus qu'en réalité, ils n'auront aucun impact. Dans la typologie des dispositifs de médiation, on insiste en fait sur trois éléments. Donc, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais je les cite juste pour que vous le sachiez. L'idée pour nous, quand on travaille sur la médiation numérique, je dis nous, je fais référence souvent à l'équipe de formateurs, en fait, parce qu'on forme en fait des bibliothécaires à mettre en œuvre des stratégies de médiation numérique complètes. Et dans ces stratégies de médiation numérique, on travaille sur la recommandation et on travaille sur la manière dont on va situer la recommandation et donc la valeur ajoutée des bibliothécaires, soit en ligne, sur les médias sociaux, sur les sites des bibliothèques, sur des blogs, soit dans la bibliothèque elle-même. Et c'est sur ce point-là, évidemment, que je vais développer ici, aujourd'hui, sur ces fameux dispositifs passerelles. Mais il s'agit bien de comprendre que c'est un ensemble et que c'est un positionnement des bibliothécaires avant d'être une histoire de technique, on a un peu évoqué déjà aujourd'hui. Donc ces fameux dispositifs passerelles, pour moi, ils sont censés favoriser et donc être une interface entre un milieu tangible et des données numériques. Ça dit pas grand-chose, ça dit simplement qu'on va les situer et qu'on va les rendre lisibles dans un contexte tangible. Alors évidemment, on a parlé du troisième lieu, j'y reviens pas. La notion, effectivement, elle est tarte à la crème. Et du coup, maintenant, l'intérêt, c'est d'aller au-delà de cette notion-là et de s'intéresser à la manière dont, dans cet espace d'abondance d'informations, dans ce contexte où l'information est partout, quels sont les dispositifs architecturaux d'aménagement, on en a vu pas mal d'exemples aujourd'hui, qui vont favoriser, par exemple, l'appropriation de l'information et la créativité. Et donc là, on est déjà sur des dispositifs de médiation passerelle qui ne sont pas centrés sur la recommandation, mais qu'on peut qualifier quand même de dispositifs de médiation au sens architectural. Donc ici, c'est l'exemple de cette yourte et puis l'exemple de ces sièges connectés qui vont inciter à la concentration, inciter en fait à, inciter à un usage informationnel spécifique. Et du coup, la question aussi, c'est comment la bibliothèque va conseiller, va recommander, va permettre à l'usager non pas d'élargir son accès aux documents, mais d'élargir la manière, plutôt la palette de ses usages de l'information. C'est un petit peu ça l'enjeu. Du coup, l'enjeu, hein, de manière plus globale, devient moins celui de l'accès à l'information que celui de la culture de l'information et du coup de la manière dont les bibliothécaires permettent à des jeunes dont tu parlais tout à l'heure, à des étudiants qui sont experts dans les médias sociaux, de devenir aussi experts dans la conception de leur CV en ligne pour trouver un emploi, par exemple, en étant assez fin dans l'analyse des usages. Et du coup, de ce point de vue-là, l'accueil a évidemment une place très importante. On en a très peu parlé, mais en fait, l'accueil, c'est quand même le premier dispositif passerelle, pour le coup, de médiation. La passerelle, c'est le bibliothécaire, pour le coup. Et du coup, les postures sont extrêmement importantes. Les aménagements aussi sont importants. Ici, c'est l'exemple d'Amsterdam avec des postes d'accueil mobiles et puis des postes aussi d'accueil qui ne sont pas en face-à-face, où le bibliothécaire n'est pas celui qui sait par rapport à celui qui a une question, mais on est en côte-à-côte, on est plutôt des coachs de l'information, pour employer une expression à la mode. Et puis j'aime bien aussi cet exemple récent, j'en ai fait un billet récemment, j'ai trouvé cet exemple dans une bibliothèque qui est à Madrid, une école de commerce, où là c'est l'idée, on a parlé de déconnexion tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé de la déconnexion, là c'est un dispositif qui permet de non pas de se déconnecter, mais de se dénotifier, de montrer que la bibliothèque peut être un espace dans lequel on arrête avec les sollicitations permanentes des notifications qu'on a sur les smartphones et du coup créer la bibliothèque comme un espace qui n'est pas hors de l'information mais qui est hors d'une sollicitation permanente d'une attention fragmentée. Moi j'aime bien cette idée. Alors c'est un dispositif fourni par une start-up qui s'appelle Smart Areas qui démarre hein, et c'est à la base petite balise de micro-géolocalisation. Donc la personne, l'usager, installe l'application sur son mobile et il a parfaitement le choix d'activer ou pas ce système. Donc c'est vraiment lui qui choisit, hein, c'est pas la bibliothèque qui le choisit. Mais une fois qu'il a activé ce système, quand il entre dans la bibliothèque, automatiquement son smartphone se met en pause de notification et il peut d'ailleurs recevoir une information de la bibliothèque qui va lui envoyer les dernières informations d'actualité ou les informations nécessaires sur l'usage du lieu. Donc j'aime bien cette idée d'utiliser le numérique en contexte. Là, on est plus dans un contexte de service que de recommandation, pour le coup. Mais la vraie question pour moi, c'est celle-ci. C'est vraiment dans cette ère de l'abondance, comment les bibliothécaires, au-delà de la rencontre humaine, construisent des dispositifs pour aider à choisir. Et là, il faut quand même faire un tout petit détour pour vraiment bien comprendre les enjeux par la théorie de la longue traîne. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie qui a été remise au goût du jour en 2004 par Chris Anderson, le rédacteur en chef de la revue Wired, mais qui en fait est issue d'une très vieille loi bibliométrique, en fait, même en sciences de l'information, qui en fait exprime le fait que dans un marché culturel, sur un marché de l'information, vous avez en fait en abscisse des produits et en ordonnée la popularité de ces mêmes produits. Quand vous faites le rapport entre les deux, vous avez toujours une courbe qui ressemble comme ça à une longue traîne, avec une partie rouge, très peu de produits, très populaires, et une partie jaune, beaucoup de produits, et finalement une longue traîne extrêmement large de produits qui vont avoir très peu d'attention, mais qui vont être très nombreux. Traditionnellement, les bibliothèques sont des services publics conçus pour la gestion de la longue traîne, c'est-à-dire la partie jaune, en particulier les bibliothèques de conservation. Là où c'est devenu intéressant avec le numérique, c'est que les librairies, par exemple, n'avaient pas les moyens physiques de proposer l'accès à la longue traîne des documents, parce qu'elles avaient, et elles ont toujours, des contraintes locales, spatiales, alors que la vente en ligne, les entrepôts d'Amazon, pour prendre cet exemple-là, sont absolument gigantesques, et donc permettent une exploitation commerciale de cette longue traîne des livres. Ça représente, vous voyez, entre 20 et 25% du chiffre d'affaires qui correspond aux ventes cumulées de la longue traîne. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, y compris donc le fondement de service public sur la conservation des documents qui a été celui pendant bien longtemps des bibliothèques, n'est plus l'apanage des bibliothèques, puisque les acteurs commerciaux aujourd'hui ont un intérêt commercial à avoir l'offre la plus large et la plus diverse possible. Ce qui explique que vous retrouvez en fait des Spotify à 35-40 millions de titres à disposition, avec des offres absolument gigantesques en termes commerciaux. Ce qui est intéressant, donc, une fois qu'on a constaté ça, on comprend que, du coup, il faut forcément renouveler à un moment donné l'utilité sociale des bibliothèques et se repositionner. La question qui se pose, c'est comment, en fait, c'est la question principale, comment est-ce qu'on circule dans cette longue traîne des bibliothèques ? Et comment est-ce qu'on passe de Britney Spears, dans le haut de la longue traîne, des best-sellers, des best-sellers, vers d'autres titres moins connus. Là, il y a une question qui est absolument passionnante, qui est comment est-ce que, commercialement déjà, les acteurs de la vente en ligne ont réussi à construire cette navigation ? Bah, en fait, on connaît assez facilement la réponse. Pour Amazon, par exemple, c'est les recommandations qui sont essentiellement algorithmiques. Si vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Ça, c'est un dispositif de médiation à vocation commerciale dans la longue traîne de l'offre des contenus numériques. La question qui se pose forcément, c'est comment est-ce qu'on reproduit ce type de fonctionnement pour avoir des dispositifs de circulation dans la longue traîne des documents. Et donc, il y a une étude assez récente que j'ai exploitée dans mon blog récemment, qui est une étude de la revue Réseau par deux chercheurs qui ont analysé les emprunts de livres dans l'ensemble du réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Donc pas du tout numérique, hein, vraiment les livres papier. Et donc ils ont retrouvé un schéma qui est exactement celui de la longue traîne, assez normal d'ailleurs qu'on retrouve ce schéma, avec finalement très peu de titres qui sont très empruntés et une longue traîne des contenus des bibliothèques. Alors ça, je reviendrai sur ce schéma. Mais du coup, la question qui va se poser et que j'essaierai un peu de clarifier encore à la fin par rapport à la longue traîne, c'est comment est-ce qu'on se place sur la route de l'internaute pour essayer de partir de ce qu'il connaît déjà pour lui recommander des éléments qu'il est susceptible de découvrir. Parce que c'est bien ça l'intérêt de la médiation. Et soit dit en passant, ce fameux concept de sérendipité qui a l'air parfaitement poétique comme ça, hein, croiser Blanche-Neige sur le bord d'une départementale, on ne s'attendait pas à croiser Blanche-Neige, et pourtant, eh bien c'est le fondement du modèle économique de Google. Hein. C'est parce que vous faites une recherche d'information sur un sujet et que Google arrive à s'immiscer au moment où vous émettez votre besoin d'information et à vous fournir des recommandations qu'il a en fait une manière de construire un modèle économique sur ces fameuses idées de la recommandation. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'on pratique ces recommandations uniquement dans les ressources commerciales ou est-ce qu'on va au-delà ? Est-ce que les bibliothécaires sont des guides uniquement de l'offre commerciale spécifique à laquelle ils donnent accès dans leurs établissements ? Ou est-ce qu'on se situe dans cette longue traîne des contenus du web ? Est-ce qu'on est des guides dans les ressources libres et donc en libre accès et librement réutilisables ? Hein, ces ressources en libre accès, pour quantifier un petit peu les choses, qu'on n'a pas forcément ces chiffres en tête, c'est des milliards de documents. Ici, vous voyez le slide. Alors là, sont quantifiés les contenus qui sont sous licence Creative Commons, c'est-à-dire dont les auteurs ont choisi de les faire circuler et de le rendre appropriable dans certaines conditions. Les conditions sont celles-ci, mais je mais pas détaillé, j'en rappelle tant aujourd'hui. Intéressant de voir les types de documents qui sont présents sur le web, des images, des textes, des vidéos. Est-ce qu'on peut encore se permettre aujourd'hui de ne faire que de la médiation dans une offre commerciale en papier ? En fait, ça vous paraît peut-être évident que non, mais en fait, en réalité, tous les dispositifs de médiation qu'on construit se fondent à l'heure actuelle le plus souvent sur les contenus qui sont sous droit. Intéressant aussi de voir que d'autres acteurs comme celui-ci ont parfaitement compris la puissance de la recommandation entre pairs. C'est ici l'exemple de Sens Critique, hein, ce réseau social où les gens créent leur bibliothèque en ligne, commentent leur contenu et où ensuite vous avez des algorithmes qui vont calculer des scores d'affinité entre personnes pour faire se rencontrer les gens à partir de leur centre d'intérêt. Donc dispositif extrêmement élaboré, extrêmement intéressant. Pas mal de bibliothèques d'ailleurs ont des comptes sur Sens Critique, alors parfois en tant que bibliothécaire, parfois en tant qu'institution. C'est une manière effectivement de mettre... de comprendre la puissance du bouche à oreille. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce site, si vous allez voir, c'est que le fonctionnement est un fonctionnement de liste, essentiellement. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi des critiques, mais il y a beaucoup de listes. Et en fait, quand on va voir la créativité qu'ont les gens à créer des listes, eh bien en fait, c'est un truc de bibliothécaire, la liste, dès le départ. Et on voit que c'est une excellente manière de pratiquer la navigation dans les contenus. Les 10 meilleurs films de zombies ou les 12 titres à ne pas rater en cuisine. Vous voyez ? Bon, il faudrait raffiner tout ça, mais la manière dont on éditorialise la liste, on a là un dispositif de médiation qui n'est pas très technologique, qui est très ancien en réalité, mais qui est extrêmement efficace sur le web. Quand j'étais arrivé aux médiathèques du Val d'Europe, j'avais mis en place en fait, un système d'étiquettes, de recommandations par des étiquettes. Rien de technologique, pas de QR code, pas de NFC, même pas de smartphone, juste des étiquettes en papier qui avaient en fait, permis de mettre en avant la valeur ajoutée des bibliothécaires et d'essayer d'enclencher le bibliothécaire, de positionner le bibliothécaire comme un guide dans cette fameuse longue traîne. Vous savez, on a souvent le discours dans les bibliothèques de dire « mais finalement, nous, on est des passeurs, tout ça ». Et puis souvent, on dit « bon, bah, on achète la grosse cavalerie littéraire et les best-sellers, mais en fait, on compte bien sur le fait que les gens vont spontanément aller voir d'autres types de contenus et passer spontanément de Guillaume Musso à Proust. Voilà. » En fait, ça ne se fait pas forcément de manière aussi simple. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on rend cette médiation lisible ? Nous, on avait trouvé ce moyen-là, étiquette très simple, vous voyez, un peu moche pour le coup. Mais l'idée, c'était de mettre deux étiquettes, une étiquette sur, la première de couverture, ce qu'en pense Yann, bibliothécaire, avec un texte dont je reparlerai du positionnement, un texte, une petite critique sur le document, et puis une étiquette en quatrième de couverture. Ce livre vous a plu, on vous conseille aussi tel ou tel titre. Dispositif très simple, mais en fait extrêmement efficace de manière... alors évalué de manière empirique et statistique aussi après, pour recommander. Et finalement, qui est le mieux placé dans une bibliothèque pour conseiller à partir d'un titre très connu, ce qui est aussi intéressant, mais peut-être moins connu. Bien souvent, c'est évidemment les bibliothécaires qui, du coup, se positionnent comme des médiateurs dans cette historique et dans cette thématique de la longue traîne des contenus. Alors ce dispositif, ça date de quelques années maintenant, il a été repris par d'autres bibliothèques. C'est l'exemple des médiathèques de Valence Sud-Rhône-Alpes qui ont particulièrement axé leur projet sur les questions de médiation. Là ici, c'est un livre numérique, on a bien un QR code qui nous permet d'y accéder, et puis on a cette petite étiquette qui nous permet d'avoir un petit aperçu du livre. Elle est moins incarnée peut-être que celle qu'on avait souhaité faire, parce que nous, on avait souhaité insister plus sur le bibliothécaire qui recommande. Et donc, concevoir un dispositif, ici, qui était spécifiquement centré sur l'avis d'une personne dans la médiathèque. Et d'ailleurs, ce dispositif, c'est un dispositif de médiation qui était parfaitement adaptable, qui a été adapté par d'autres bibliothèques avec un partenariat avec un libraire, par exemple. On peut tout à fait imaginer qu'au lieu que ce soit ce qu'en pense Yann, bibliothécaire, ce soit ce qu'en pense Yann, le libraire ou le membre du club de lecture. Donc un dispositif qui met en avant la valeur ajoutée et qui permet de guider dans les contenus du web. L'intérêt de ce type de dispositif, un autre exemple ici, voilà, qui est plus proche déjà de ce qu'on avait proposé, c'est de mettre en avant le fait que les bibliothécaires sont des guides dans les contenus. Alors intéressant non pas seulement en termes de médiation, mais aussi en termes de gestion du changement dans les équipes. Quand vous proposez de faire la même chose sur une page Facebook, en fait, vous avez pas mal de bibliothécaires pour qui Facebook, c'est abstrait, c'est un peu douteux, c'est pas le site de la bibliothèque, c'est pas l'institution, et on a du mal à s'impliquer, en fait. En réalité, quand on propose des dispositifs de médiation qui mettent en avant non pas juste l'accès aux documents, mais la valeur ajoutée qu'ont les bibliothécaires dans l'aide au choix par rapport à ces documents, eh bien, là, on a une participation extrêmement forte des personnels et éventuellement même des groupes de public ou des clubs de lecteurs qui peuvent être en lien avec la bibliothèque. Donc dispositif de gestion du changement extrêmement efficace pour enclencher des démarches de contenu et des recommandations de dispositifs et donc de conception de dispositifs passerelles de médiation. D'autres bibliothèques ont fait ça. Pour vous donner un autre exemple, les bibliothèques de Massy-Palaiseau ont proposé comme ça des étiquettes qui s'appellent des verdicts. C'est un peu différent. Et là, on peut aussi partir dans l'idée d'une citation d'un contenu. Là, on incarne quelque chose. On rend lisible les choses de manière spécifique. Et surtout, on ne place pas la technologie à l'avant. On place la valeur ajoutée en termes de recommandations en premier lieu. Après, ça donne ça. On pourrait parfaitement y ajouter des QR codes. Et ce n'est pas le cas ici, mais ça pourrait. Intéressant de voir aussi qu'une des offres, à mon avis, les plus intéressantes en ce moment de livres numériques pour les bibliothèques, c'est l'offre d'un petit diffuseur qui s'appelle Ifraction, qui travaille avec plusieurs éditeurs et qui propose non pas des livres numériques sous forme de base de données, mais sous forme de cartes. Et ces cartes, en fait, elles ont un design extrêmement précis, avec une couverture, avec une présentation en quatrième de couverture et un petit QR code qui permet en fait d'accéder au livre numérique. Et donc le lecteur, il va emprunter la carte et il va emprunter un objet tangible pour accéder au livre numérique. C'est extrêmement intéressant parce que du coup, on n'est plus dans l'abstraction, mais on est dans le fait de rendre lisible un objet et du coup, la personne a juste à se connecter ensuite avec soit le code, soit le QR code si elle veut l'utiliser. Évidemment, ces offres, à la différence de PNB, soit dit en passant, n'ont pas de DRM, ce qui est quand même particulièrement intéressant pour les usagers en termes de facilité d'accès. Et ça évite, en fait, si vous voulez, de transformer le bibliothécaire, comme c'est le cas actuellement, en service après-vente pour l'usage d'une offre pour laquelle il a payé beaucoup d'argent. Comment on matérialise du coup les livres numériques ? C'est une vraie question aujourd'hui et c'est... pas mal d'expériences aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc Frédéric en a cité quelques-unes. Comment on rend lisible le livre numérique ? Je ne sais pas si tu avais cité cet exemple-là. Mais on est sur des dispositifs qui sont toujours un petit peu artisanaux, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est aussi une réflexion intéressante. On n'a pas encore de prestataire qui nous propose des produits documentaires de ce type-là aujourd'hui. Or, Ifraction, c'est un des seuls pour le livre numérique aujourd'hui. On a vraiment une séparation extrêmement forte entre les ressources numériques et les objets tangibles. Et puis, alors, il y a une question de positionnement qui, moi, m'intéresse tout particulièrement pour revenir à ces histoires de positionnement des bibliothécaires. Quand on écrit des étiquettes au Val d'Europe, là où je travaillais avant, quand on avait mis ce système d'étiquettes en place, on avait insisté assez lourdement, ce qui donne cette image un peu violente, sur le positionnement habituel des bibliothécaires. Les bibliothécaires sont les seuls à faire des coups de cœur de manière systématique, à poser des gommettes en forme de cœur, à être en fait un peu les oui-oui de la littérature. Il y a un côté comme ça où tout ce qu'on achète doit être forcément fabuleux parce qu'on est dans l'idée que, en fait, il faut faire ressortir nos trésors de nos collections. Et c'est pour une part vrai, mais est-ce que pour autant, il ne faut pas se permettre d'avoir des visions critiques sur nos collections et d'engager en fait un dialogue culturel avec les usagers, un dialogue critique. On n'est pas obligé d'être aussi violent que de cette image, mais on peut avoir en fait des avis nuancés, des avis subjectifs sur des titres. C'est particulièrement intéressant et, si vous voulez, ça engage le bibliothécaire comme quelqu'un qui a un avis subjectif et qui est capable du coup de recommander à partir de goûts culturels. Et du coup, si vous avez quelqu'un en qui vous croyez le jugement, dans lequel vous avez confiance, eh bien, vous allez en fait avoir un crédit confiance très important pour les bibliothécaires. Une étude d'ailleurs en 2004 avait remarqué que pour la critique, les ventes d'un titre donc publié dans le New York Times augmentent de 62%, mais augmentent aussi de 34% quand la critique est négative. Le simple fait de critiquer négativement un document suffit à attirer l'attention et à construire en fait un parcours d'usager. Et en fait, les parcours d'amateurs littéraires ou d'amateurs de contenu culturel se construisent aussi en définissant ce qu'on n'aime pas. En fait, allez voir sur Sens Critique, vous avez énormément d'avis négatifs, de matchs, de discussions entre critiques, et c'est en fait comme ça qu'on construit ces parcours dans les collections. Donc la question, c'est comment les bibliothécaires rentrent dans ces questions-là. Et puis du coup, dans la question de recommandation, pour reciter cette étude que je citais tout à l'heure, le principal résultat, en fait, il est là, c'est que les bibliothécaires ont une véritable force, un impact dans cette longue traîne, puisque ici, donc, il a été démontré que le bibliothécaire a 17 fois plus de chances de promouvoir un livre. Le livre, en fait, a 17 fois plus de chances d'être emprunté quand il est recommandé par un bibliothécaire. Encore, là, cette étude portait sur un catalogue assez gigantesque de la ville de Paris, sur un tout petit nombre de titres et avec des dispositifs de médiation extrêmement simples. C'était des tables de nouveautés ou c'était des coups de cœur à l'échelle de la ville de Paris. Donc imaginez ce que ça pourrait donner si des bibliothèques à grande échelle décident d'entrer dans ces questions de recommandation de manière plus élaborée. L'impact, il est réel. Et d'ailleurs, ce que notaient les chercheurs, c'est que contrairement à la concentration extrêmement forte dans le domaine commercial, avec un très petit nombre de titres qui est le haut de la longue traîne, dans les bibliothèques, vous avez une bibliodiversité qui est beaucoup plus forte et une circulation dans la longue traîne qui est tout à fait importante. Alors du coup, comment on fait pour développer des usages ? Je ne reviens pas sur la question du QR code, bien que pour moi, donc, le QR code, c'est vraiment un dispositif, enfin, ça doit être transformé en dispositif en réalité. Et même si les impacts en termes de nombre de clics sur le QR code ne sont pas forcément très importants, le QR code a ceci d'important de matérialiser le fait qu'il existe quelque chose de numérique derrière. Il y a un côté, si vous voulez, il y a un effet, en ergonomie, on parle d'affordance pour rendre lisible le fait qu'il y a une zone cliquable. En fait, là, c'est la même chose. Mettre un QR code, c'est d'ailleurs pas forcément pour que la personne le flash avec son smartphone, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de numérique derrière. Voilà, c'est tout à fait important aussi de le concevoir comme ça. Et puis, du coup, ces fameuses histoires de dispositifs, vous avez encore des bibliothèques aujourd'hui qui mettent des QR codes vers un site qui n'est pas responsive design, comme on dit, c'est-à-dire dont l'affichage ne s'adapte pas à l'écran d'un mobile. Or, essayer de flasher un QR code avec un ordinateur portable, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne reviens pas sur ces exemples, mais on a donc d'autres dispositifs de médiation qui existent, qui se développent. C'est ce qu'on appelle les pirate box. À l'origine, c'était des éléments pirates. Maintenant, c'est devenu des éléments de partage en bibliothèque. Le dispositif technique peut s'adapter. Et c'est donc des mini-routeurs qui émettent un réseau Wi-Fi et les personnes peuvent se connecter sur ces réseaux Wi-Fi et télécharger le contenu qui figure dans la clé USB connectée au petit routeur. Pas mal de bibliothèques aujourd'hui se sont saisies de ces dispositifs. C'est le cas des bibliothèques de Nancy qui ont en fait mis en avant et voyez un peu... essayer de rendre lisible et rendre... Là, on est dans le dispositif de médiation. On n'est pas juste dans une box posée dans un coin. On est sur... on essaye de rendre les choses attractives et de l'adapter aux besoins des utilisateurs. Donc ici, c'est intéressant. Moi, cette box à emporter. J'aime bien l'idée. En passant, vous avez un site Bibliobox qui est assez bien fait. Et puis, pas mal d'expérimentation avec les QR codes qui mettent justement en contexte cette histoire du QR code pour en faire un dispositif de médiation. Il y a ces initiatives qui viennent de l'éducation nationale où en fait on propose voilà, des albums. Il n'y a pas besoin de 40 QR codes, ça peut être très ciblé, ça peut être sur une thématique et encore une fois ça rend visible le fait qu'il y a des choses numériques derrière. Et j'aime bien aussi cette image-là. Voilà, ça c'est les professeurs, les profs doc de l'Académie de Nice qui ont fait ça. J'aime bien aussi ces dispositifs d'accès au domaine public. Ici, c'était un projet artistique qui voyez, faisait une bibliothèque en fac-similé avec des QR codes et des livres, des faux livres. Rien n'empêche une bibliothèque de rendre lisibles ses collections de classiques de cette manière-là, et c'est particulièrement important. Les classiques, d'ailleurs, sont tout à fait importants, non pas forcément à promouvoir en tant que classique, mais au moment où des usagers peuvent en avoir besoin. Quand vous avez une horde de collégiens qui veut accéder à Tartuffe de Molière, vous avez peu d'exemplaires de Tartuffe de Molière, mais par contre, vous avez la possibilité de faire un dispositif de médiation où vous savez qu'il y a un besoin et vous allez vous saisir d'un outil pour essayer d'être en phase avec les usages et du coup donner accès aux Tartuffes de Molière sans DRM, domaine public, et de manière extrêmement efficace avec un QR code. En fait, peu importe finalement le dispositif passerelle, du moment où vous essayez de cerner un usage ou de susciter un usage sur les collections. C'est ça qui me semble tout à fait important. L'exemple du NFC qui est effectivement moins développé, là c'est un exemple que j'avais croisé à l'IFLA pour des bibliothèques finlandaises. Pardon. Un des rares exemples, mais il faut dire que les questions de NFC, les smartphones NFC sont encore très peu répandus en fait. Donc l'intérêt des QR codes, c'est qu'ils sont interopérables, faciles à produire, comme le disait Frédéric. Et puis, il y a aussi la médiation low cost. Moi aussi, je pense aux petites bibliothèques qui n'ont pas de RFID, qui n'ont pas, qui ont rien du tout et qui, en fait, juste ont des, vous savez, des codes-barres, en fait. Un bon code-barre, oui, un bon code-barre avec une bonne douchette et un poste informatique, vous pouvez faire un dispositif de médiation en permettant aux gens qui ont le document dans la main, non pas de trouver le document, c'est complètement idiot puisqu'ils l'ont déjà dans la main, mais de s'informer sur le fait de savoir s'ils vont emprunter plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Du coup, l'enjeu, c'est celui d'aide au choix en contexte et dans une bibliothèque. Alors, vous avez des dispositifs de médiation un peu plus élaborés que la douchette qui existe quand même. C'est le cas de la Cité des Sciences à Paris qui a proposé une borne qui s'appelle la borne Web the Book. Alors, ça existe depuis des années. J'en ai vu une seule, donc, à la Cité des Sciences. Ça a été un bid commercial total, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'énormément de bibliothèques se sont équipées en puces RFID et qu'en fait, finalement, très, très peu de bibliothèques ont pensé à la RFID comme dispositif de médiation et pas seulement comme dispositif de gestion logistique des prêts et retours, en fait. Et donc, ça fonctionne très, très mal. Alors, en fait, le principe, il est simple. Hein, vous approchez le document équipé d'une puce une puce RFID, pardon, et la puce est reconnue, et vous accédez à une critique, à quelque chose qui va vous aider, en fait, à entrer dans ce document et à faire votre choix par rapport à d'autres documents. Offre de ressources libres dans les médiathèques. On a aujourd'hui des bornes qui circulent de manière assez régulière, mais je vais accélérer un petit peu parce qu'il me reste peu de temps. Sachez que la bibliothèque de Choisy-les-Rois a particulièrement axé ses dispositifs de médiation sur ces fameuses bornes en accès libre. Tout l'enjeu, évidemment, est dans l'interface de la borne et dans la manière dont vous avez une incarnation de ces recommandations. Là encore, la borne, c'est l'outil. Comment on le transforme en dispositif efficace de médiation ? Une des réponses, c'est cette association de bibliothécaires musicaux qui a créé Ziclibre en Bib, où là, on n'est pas juste dans le fait de recenser des musiques libres, mais de les critiquer. De les critiquer et d'essayer de faire ressortir ce qui est intéressant et de construire en fait un rapport à la ressource. Quand vous avez des bibliothécaires qui s'impliquent dans ce type de médiation, vous avez la possibilité, du coup, de raccrocher dans la longue traîne des contenus par rapport à des titres qui sont plus connus. Je me dépêche. Je passe là-dessus. Autre dispositif que je cite, parce qu'il est en train de se développer pas mal au Québec, c'est l'écran qui s'appelle Manivelle, qui est un écran assez intéressant parce qu'il y a tout un système, un écosystème de diffusion de contenu interconnecté entre bibliothèques, si j'ai bien compris, à partir de ce dispositif, et que ce dispositif est un écran avec une manivelle. Donc on doit tourner la manivelle pour afficher des choses sur l'écran, ce qui est assez intéressant. Je vous invite à découvrir le site. C'est québécois, mais je pense que certaines bibliothèques françaises vont s'y intéresser assez vite. Les tablettes et les liseuses, même chose, tablettes et liseuses, pour nous, ce sont des dispositifs de médiation à partir du moment où elles sont destinées à élargir la palette des usages, des besoins des usagers. Et donc une tablette posée dans un établissement, ça ne sert à rien, mais une tablette comme dispositif de médiation, c'est une tablette avec des dossiers qui propose des sélections d'applications. Alors, de plus en plus, les bibliothèques font ça et c'est très bien. Mais le dispositif très simple de médiation sur l'interface de la tablette, c'est le dossier. Et comment vous allez nommer vos dossiers, ça aussi, ça fait partie de la conception du dispositif de médiation. Si vous appelez votre dossier la sélection des bibliothécaires du mois, personne ne va la consulter. Par contre, si vous l'appelez les 10 applications incontournables pour tout étudiant qui se respecte, là, vous allez déjà attirer l'attention parce que vous êtes parti d'un usage potentiel sur lequel vous pouvez déployer une forme de médiation. Du coup, la sélection des applications dans la longue traîne des contenus, il y a des centaines de milliers d'applications aujourd'hui sur les tablettes, on est encore une fois, dans ces questions de médiation. Donc très bien qu'il y ait des bibliothèques, qu'il y ait plein de tablettes et plein de liseuses. La question, c'est comment on incarne la médiation. Et du coup, vous voyez que là, on prend les choses par l'outil, mais ça suppose de s'organiser dans une bibliothèque pour créer ces conditions d'une médiation réussie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des bibliothécaires qui vont être juste des gestionnaires d'espaces numériques ou des animateurs multimédia améliorés dans des nouveaux lieux, mais qui vont être des gens capables de mettre en œuvre une stratégie de médiation numérique à partir d'axes qui sont prédéterminés, traduits en dispositifs de médiation passerelle, de flux ou ponctuel, puisqu'il y a différents types de dispositifs. J'ai presque fini. Vous voyez bien que, du coup, l'idée, ça va être essayer de déterminer des lignes éditoriales qui vont être autant d'usages qu'on souhaite encourager pour les outils numériques. Pas le temps de développer, mais il faut aussi, évidemment, pour que ce soit efficace, que ce soit des projets qui prennent appui sur les compétences des agents des bibliothèques, évidemment. Si vous avez des spécialistes de la littérature jeunesse, exploitez-les. Je passe aussi là-dessus, rapidos. Voilà. Et du coup, peut-être le slide le plus important pour moi, c'est celui-ci. Ça représente en fait vraiment l'enjeu de ces questions de médiation et de ces questions de dispositifs de médiation. On part du haut de la longue traîne où, dans laquelle, en fait, finalement, tout le monde a accès aux nouveautés aujourd'hui, que ce soit de manière légale ou illégale. Voilà. Ça, c'est assez clair. Par contre, on a des contenus de niche en bas de la longue traîne qui sont assez accessibles pour les amateurs, hein, les amateurs d'un genre super pointu, ils vont en général se retrouver assez facilement entre eux autour d'un forum et ils vont en fait développer leurs pratiques culturelles. La vraie question qui se pose à l'ère de l'abondance des contenus, à mon avis, c'est comment est-ce que les bibliothécaires sont des espaces qui permettent de circuler dans la longue traîne du haut vers le bas. Et comment du coup on est des bibliothécaires, donc des établissements, qui mettons en place des politiques publiques de circulation pour développer des communautés d'intérêt et développer des parcours d'amateurs. Comment est-ce qu'on contribue à l'émergence de cette notion d'amateur au sens noble du terme, hein, celui qui aime, et du coup, comment est-ce que ces dispositifs de médiation, au-delà des objets techniques, sont centrés sur les contenus intermédiaires, pour faire un clin d'œil à Patrick Bazin, qui avait cette notion qui était, à mon avis, extrêmement juste et tout à fait pertinente. Comment est-ce que les bibliothécaires, du coup, favorisent la circulation dans la longue traîne des contenus et, du coup, contribuent à cette circulation de la donnée à la connaissance? Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci. On prend le temps de une ou deux questions, pas davantage, peut-être. Il fait très chaud, tout le monde est un peu abasourdi par toutes ces analyses et exemples.
Comme le schéma est affiché, est-ce que vous pourriez juste prendre une seconde pour...
Le schéma qui a été affiché, est-ce que ce serait possible de prendre juste une minute sur le dernier schéma, sur les données, les informations?
Oui. Celui-ci alors, ce schéma-là, pour moi, il est assez symbolique, hein. Il représente la manière dont l'information brute se transforme en connaissance. Et du coup, tout ce parcours-là, finalement, c'est le parcours qui est au cœur des enjeux des bibliothèques ou des enjeux, en fait, de toutes les politiques publiques liées à l'information. Donc, je le montre juste comme vraiment la prise de recul par rapport à notre rôle dans un monde où l'information est partout. Comment est-ce qu'on favorise la transformation de l'information en connaissance assimilée qui enrichit et qui, du coup, a des aspects positifs pour tout le monde. Il y avait une question devant, je crois.
En fait, ce n'était pas une question, mais un témoignage pour rebondir sur un propos de Sylvain Mercier qui s'étonnait du fait que... Enfin, qui nous invite à... En matière de recommandations, ne pas hésiter à faire de vraies critiques, et y compris des critiques négatives. Alors à Brest, on a développé pas mal de dispositifs de recommandations numériques dans le catalogue ou sur des blogs ou sur d'autres outils. Et effectivement, on pratique ponctuellement des critiques négatives, en particulier sur la littérature de jeunesse, parce qu'on a un outil spécial pour ça. Et on a eu deux fois des remarques d'auteurs qui nous ont assez violemment... interpellé en s'étonnant qu'une institution publique aussi sérieuse qu'une bibliothèque puisse se permettre justement de démettre des critiques négatives à l'égard de livres. Voilà, donc ça ne va pas de soi non plus pour les auteurs. C'est tout.
J'ai une petite question un petit peu naïve au sujet de la médiation des ressources numériques. J'ai un petit peu le même avis que vous. Lorsqu'un lecteur est dans les rayons et qu'il cherche un livre, il tombe sur un QR code, il n'a pas un ordinateur sur lui, il n'a pas forcément le réflexe ou la volonté d'accéder au livre immédiatement. Par contre, quand on parle d'un livre numérique ou d'une revue numérique sur Twitter, là, on voit que les clics sont tout de suite beaucoup plus élevés. Par conséquent, nous, dans notre politique de médiation, au début, on avait favorisé les QR codes, et maintenant, on en revient à un système beaucoup plus simple, qui est un chemin d'accès, qu'on essaie de rendre attractif avec InDesign, par exemple. On a réalisé un guide de nos ressources numériques, et au dos, plutôt que de mettre un QR code qui renvoie à la page, on a mis ce chemin d'accès. Et vous n'en avez pas du tout, enfin, peu parlé. Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt? Notamment, nous, on réfléchissait à mettre en place, pareil, des petites cartes pour matérialiser les livres dans ScholarVox ou dans d'autres bibliothèques numériques. On était beaucoup plus parti sur cet aspect-là de chemin d'accès, puisque comme ça, le lecteur-là, il peut retrouver facilement ensuite, une fois connecté, sur le site de la bibliothèque.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est parfaitement complémentaire, tout ça. Si le chemin d'accès est plus efficace pour vous, très bien. Moi, je pense aussi que les QR codes, souvent, on se demande, mais est-ce que les gens vont savoir les utiliser? Et il y a pas mal de bibliothèques qui commencent à mettre des URL courtes, en fait, juste sous le QR code. Comme ça, vous gommez la question de l'usage de l'outil. La personne, elle va juste prendre en photo le QR code, et puis comme ça, elle aura l'URL courte, et elle pourra éventuellement la retaper si elle est très courte et bien conçue. C'est parfaitement efficace. Du coup, pour moi, la mesure de l'impact par le nombre de clics liés au QR code, elle n'est pas forcément la plus efficace. Mais effectivement, si le chemin d'accès fonctionne, pourquoi pas? L'intérêt, encore une fois, c'est de manifester qu'il y a quelque chose de numérique, et du coup, d'arriver à l'incarner et attirer l'attention des gens, en fait.
Personnellement, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que moi, je vous rejoins au sens où je pense qu'en termes de communication graphique, communication visuelle, on peut faire plus explicite et plus efficace que le QR code aujourd'hui, et quelque chose qui sera mieux compris tout simplement de la part des usagers. Et bon, voilà, après, c'est pas dramatique, mais je vous rejoins tout à fait. Je serais curieux de voir d'ailleurs la manière de représenter le chemin d'accès. Et on parlait de photos, prendre en photo un QR code. Ne pas oublier aussi que pour beaucoup d'étudiants, et pour, je pense que pour nous aussi, pour se souvenir de quelque chose, d'une lecture ou d'une URL, prise de photo sur son smartphone, prise de notes visuelles, c'est ce qui se développe beaucoup. Et bon, ce qui, à mes yeux, rend tout à fait... non nécessaire le recours à des QR codes.
Bah, voilà. Moi, j'ai l'exemple quand même d'une bibliothèque de... Je crois que c'était Bordeaux, qui avait mis des QR codes dans son interface, justement en pensant aux étudiants qui allaient prendre le QR code sur l'écran et du coup garder effectivement la mémoire du
document. Ça marche très bien de prendre en photo un écran.
Aussi, ouais.
Les étudiants le font beaucoup.
Les deux. Oui, non, mais les deux.
Alors, une dernière intervention.
Une petite observation qui va dans le sens de ce que disaient Sylvère et Nicolas, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit qu'à force de valoriser, notamment sur le plan numérique, des contenus, on devient nous-mêmes producteurs de contenus à tout niveau. Tu n'as pas eu le temps de développer sur la musique, mais on a surtout pris des exemples de lecture publique, ça vaut également pour le patrimoine. Et de fait, ça amène, parce que dans nos formations, il y a aussi la formation à la pratique, à l'écriture, mais ça amène la bibliothèque à se gérer non plus uniquement comme un dépositoire de contenu en quelque sorte, mais d'être un média elle-même. Et ça, pour le coup, c'est un virage professionnel qu'il faut prendre, ne pas nous mettre toujours forcément en aval de la communauté médiatique dans laquelle que l'on est amené à valoriser. Malgré tout, il y a des auteurs qu'il faut favoriser, mais en tout cas prendre les pratiques des médias, puisque nous sommes un média comme les autres.
Merci beaucoup.